va les cacher.
Avant ça, il y a le festival Bourg-Quénalpé à Saxon, à la salle polyvalente les 22 et 23 août. Alors, on imagine qu'il y a encore pas mal de choses à faire, à préparer, à organiser. Et on peut vous soutenir dans ce beau projet. Comment est-ce qu'on s'y prend ?
Alors, on a mis en place un crowdfunding pour justement nous aider à organiser tout ça. Vous pouvez, si vous tapez Festival Bourg-Quénalpé sur Internet, vous tombez directement sur la page du crowdfunding. Donc, voilà. qui est en place jusqu'au 29 juin.
Allez, vous faites ça, vous allez sur Google, vous tapez Festival Bourg-Quénalpé et vous allez soutenir ce beau projet, le Festival Bourg-Quénalpé qui aura lieu à la salle polyvalente de Saxon les 22 et 23 août. On se réjouit. Merci à vous deux pour votre visite sur RNFM.
Merci à vous.
Merci pour l'invitation.
Plein succès.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Wish that it was simple. I wish there was a way to fix what I have broken, to change the way I'm made. 'Cause words, they don't come easy, and everything I hate is listening to the silence. And there's a million things to say to you. I wish you knew how hard it is that you know, 'cause you don't know. If the world was on fire, I'd fight it for you. I'd cry enough water and breathe all the fumes, all the burns in this sky. And I died for you. I died for you. 'Cause I don't wanna know what living's like without you. I can't do this without you. And there's a million things to say to you. I wish you knew how hard it is for me to let you know, 'cause you don't know. If the world was on fire, I'd fight it for you. I'd cry enough water and breathe all the fumes and all the birds in the
vous accompagne toute la nuit
avec ses meilleurs moments.
Le 9h,
13h,
service compris.
Dans Culture Bear, on a le plaisir d'accueillir Carole, directrice marketing de la brasserie White Frontier à Martigny. Salut Carole.
Salut Patrick.
Tu vas bien ?
Ouais, super, et toi ?
Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un débat que personne n'ose vraiment trancher. La bière, c'est mieux en bouteille ou en canette ? Carole, on a besoin de toi pour nous éclairer. D'ailleurs, tu es venue avec une canette. Est-ce que ça veut dire que tu as une préférence pour ce contenant-là ?
Ouais, Patrick, je suis venue avec une canette. Il fait très chaud. Je suis venue avec une sour au citron. Je me suis dit que tiens, ça pouvait te rafraîchir un peu. Alors je vais l'ouvrir. Je te la laisserai déguster pendant que je vais te répondre à ta question,
avec
évidemment.
Plaisir.
Mais oui, il n'y a pas de réponse oui ou non. Mais moi, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de vous éclairer sur vos choix par rapport à la canette, la bouteille. Clairement, il y a une réponse si on parle en termes de qualité de la bière. Alors là, c'est vraiment la canette qui gagne. Et ce n'est pas juste une mode. Vraiment, pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus de bières dites premium dans des canettes ces derniers temps? Je ne sais pas si tu as remarqué. Ça vient en fait des Américains qui adorent les IPA, donc les bières houblonnées. Et les brasseries ont dû repenser leur packaging, les brasseries américaines donc, avec ce marché qui est grandissant.
Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça change?
Eh bien, le houblon, tiens, ta bière, déteste, le houblon vraiment déteste la lumière. La lumière et surtout les UV provoquent une réaction chimique entre les acides alpha du houblon et les composés soufrés présents naturellement dans la bière. Cette réaction, elle va donner naissance à une molécule très particulière, le 3-méthyl-2-butène-1-thiol. Ce composé est identique à celui qu'on retrouve dans les... Attention, accroche-toi. Le spray de défense des moufettes.
Ah ouais.
Et c'est lui qui va donner vraiment une odeur désagréable, un goût rance ou animal. Typique des bières finalement qui sont restées en rayon trop longtemps ou au soleil. Le verre transparent ou vert va pas du tout bloquer les UV. Donc pour une bière houblonnée, c'est vraiment non. Et puis le vert brun, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Par contre, la canette, elle va bloquer 100% de la lumière. Mais attention, je répète encore, mais la canette ne protège pas de la chaleur. Donc gardez bien vos bières au frais, mais surtout celles qui sont houblonnées.
Et les clients, ils acceptent la canette ou ils préfèrent la bouteille?
En retail, donc en supermarché, en magasin, pas de problème. Je crois que c'est vraiment acquis. Mais on aurait qu'à, donc café, hôtel, restaurant, un peu moins. Certains établissements plus modernes l'acceptent tout à fait, comme par exemple les touristes qui auront dès cet été la Memento, une sour à la framboise en canette de la brasserie White Frontier à leur carte.
Ok, mais on entend parfois que la canette, ça donne un goût métallique, c'est pas le cas?
C'est faux. Là, pour le coup, c'est vraiment faux, il n'y a pas de débat. L'intérieur des canettes est recouvert d'un film neutre, justement pour ça. Donc tu bois jamais de l'aluminium. Et de toute façon, le mieux, c'est de verser votre bière dans un verre, libérer les arômes, laisser la mousse se former.
Et côté écologie, c'est pas pire la canette?
Pas forcément, surtout par rapport à notre marché suisse, hein, parce que c'est très 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 comparable selon les pays. Premièrement, la canette, elle est ultra légère à transporter, donc moins d'émissions de carbone. C'est 100% recyclable et très bien recyclé de nouveau en Suisse, parce qu'il y a 96% des Suisses qui recyclent leur canette en aluminium. C'est le même taux que pour la bouteille. La bouteille consignée, c'est bien aussi, mais c'est pas toujours possible pour les petites brasseries ou les circuits courts. Il faudrait que tout un canton ou tout un pays s'y mette, comme en Allemagne. D'ailleurs, il y a une initiative qui vient de passer aussi en France, dans 4 régions, pour la bouteille consignée et réutilisable.
Et chez White Frontier, alors, vous avez choisi votre camp?
On fait les deux, mais on mise de plus en plus sur la canette pour nos bières innovantes. C'est moderne, c'est efficace, ça protège notre travail, et puis ça claque vraiment en rayon, hein. Tu peux faire des magnifiques étiquettes, beaucoup plus grandes, avec finalement un design plus long, plus peps. Voilà. Derrière ce petit débat entre canette et bouteille, il y a en fait des vrais enjeux, hein, de goût, de fraîcheur, de qualité. Et si vous doutez encore, le mieux, c'est d'en goûter une bonne en canette, évidemment. Alors Patrick, la Squeeze Game, cette sour au citron d'Amalfi, comment tu trouves?
Je trouve qu'elle est hyper rafraîchissante.
Ah, génial.
Elle est trop bonne. Santé.
Santé.
Merci Carole.
Avec plaisir.
Et puis le format 44 centilitres, c'est pourquoi?
Le format 44 centilitres, c'est aussi appelé la Tall Boy. Et c'est devenu un peu un standard dans le monde de la craft beer. Et ça nous vient de nouveau des États-Unis et du Canada, où les canettes, en fait, c'est en ose. Donc c'est du 16 oz, et puis ça représente en fait 473 millilitres. Et donc c'est courant là-bas depuis longtemps, et vu que les bières houblonnées ont été importées, l'idée a été importée, on a suivi aussi le packaging qui correspond.
Si on veut déguster cette Squeeze Game,
Venez au Taproom White Frontier. D'ailleurs, demain, on fait notre grande fête, le 13 juin, le vendredi 13 juin, pour la Martini Vice.
Ça va être ambiance plage.
Ambiance plage, ça va être vraiment cool. Il y aura des petites piscines, la pétanque, plein de bières à la pression.
C'est à partir de quelle heure?
C'est à partir de 15h jusqu'à 2h du matin.
Il y aura de quoi faire.
Il y aura de quoi faire.
De quoi boire. Merci beaucoup, Carole.
Merci, Patrick.
yourself, he says to me. If you play, you play for keeps. Take the gun and count to three. I'm sweating now, moving slow. No time to think, my turn to go.
She came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Rhône FM vous propose de retrouver vos programmes préférés en nouvelle diffusion tout au long de la nuit. Le 9h-13h pour être au courant de tout.
On part en balade ce matin en compagnie de l'herboriste André Fauchère. Bonjour André.
Bonjour Malena.
Cette balade, on l'a fait en forêt, puisqu'aujourd'hui on découvre le hêtre.
Pour moi, c'est un grand souvenir. C'est un souvenir de mes promenades enfants dans la forêt. Le hêtre, de son nom latin Fagus salvatica, c'est un arbre magnifique, très connu. Dans mon enfance, l'école organisait toujours dans la forêt une promenade qui devait nous permettre de reconnaître chaque arbre que l'on rencontrait.
Et vous vous souvenez spécifiquement du hêtre?
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il vous a marqué autant que ça?
Parce que le hêtre, il avait ses feuilles tellement fines. On s'amusait à faire des lunettes comme si on pouvait regarder à travers la minuscule couche de verre. C'était des feuilles tellement fines et tellement vertes claires. Et puis ces feuilles avaient l'air totalement différentes des autres. Et donc, toutes les années, je pense, tout au long de ma vie, quand je me promène, je cherche toujours à trouver le hêtre, à guetter ses premières feuilles, parce que tout autour de ses feuilles, il y a comme un petit duvet. Enfin, c'était un peu particulier. Les enfants, on aimait bien, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus dans la forêt. Donc, on est à la recherche du hêtre. Pour cueillir les feuilles, il faut les couper délicatement dans un panier afin de conserver évidemment cette beauté et cette finesse. Moi, je les prépare en salade car elles ont un petit goût de chou. Mais il est aussi possible, on peut les passer dans la poêle avec un petit peu de beurre juste pour les rajouter après sur un potage. Elles vont un peu flotter comme un bateau. En automne, au mois d'octobre, on peut ramasser les faines. Les faines du hêtre, c'est comme une enveloppe à quatre valves avec à l'intérieur, il y a deux petits fruits qui sont en forme pyramidale et qui tombent à l'entrée de l'automne, et on peut les récolter, ces faines. Les enfants devaient les récolter, on peut les manger crus. Ces petites pyramides, on les ouvre, et puis il y a vraiment le petit fruit qui sort, et on peut très bien l'utiliser cru, ou bien on pouvait le passer au beurre, le rôtir, et puis on peut après le passer dans la salade. Mais à l'époque, les gens allaient le récolter dans les forêts, c'était la mode. On cherchait beaucoup de faines parce que les dames qui n'avaient pas beaucoup d'argent faisaient de la farine avec. C'était quelque chose qui était très intéressant.
On peut en faire de l'huile aussi, hein, de ces faines.
On peut aussi faire de l'huile. Alors il en faut beaucoup, bien évidemment. Et puis il faut 6 années de conservation des faines séchées pour pouvoir après atteindre une huile avec une saveur optimale. Mais le hêtre, il est particulier parce qu'il permet l'élimination du cholestérol. Il est vraiment excellent comme cure de détox. Et puis, il aide à lutter contre la rétention d'eau et la cellulite. Comme je le disais tout à l'heure, pendant la guerre, le hêtre était très recherché pour ses faines. Car justement, les familles les séchaient, les grillaient et les utilisaient aussi comme café. Alors moi, je me souviens, nous, on habitait à côté d'une forêt. Mon père était militaire. Et c'était la recherche de week-end. On allait chercher les faines, on les récoltait, on les préparait, décortiquait, on les séchait. Et après, on les utilisait soit ma mère, les préparait en farine, soit directement les grillait suffisamment, juste qu'il fallait pas trop peu pour les ajouter dans le café.
Et ça a quel goût dans le café? On le sent vraiment?
C'est plus vraiment une odeur de café. C'était un moyen de penser qu'on pouvait boire du café.
Bon, bah, à tester. Pourquoi
oui,
pas?
C'est ça.
Très bon. Merci beaucoup, André, pour tous ces conseils. À bientôt.
Avec plaisir. À bientôt.
Mmh.
FM vous accompagne de 19h à 10h
avec ses meilleurs moments. Le 9h,
13h,
pour être au courant de tout.
Petit coup de frayeur pour Katy Perry lundi soir, alors qu'elle se produisait à Sydney dans le cadre de sa tournée mondiale. Un spectateur visiblement très fan de son idole a décidé de se jeter sur scène en plein concert. L'homme a réussi quand même à faire une accolade à l'artiste qui était en train d'interpréter ce tube. Hurt and Cold. Et le mec s'est mis à danser devant elle quelques secondes. Katy Perry a pris peur, elle s'est mise à l'écart de l'intrus avant que la sécurité intervienne. Mais elle a fait comme si de rien n'était, elle a poursuivi son concert. Il n'y aura aucun autre concert comme celui-là, alors profites-en mon ami. Voilà ce qu'a scandé l'artiste au micro à l'encontre de ce fan. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. Voilà le mec qui tente d'échapper à la sécurité. Bon, rien de bien méchant dans tout ça, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer non plus, surtout de nos jours. Katy Perry a régi en tout cas de la meilleure des manières. La chanteuse américaine qui donne en ce moment sa tournée mondiale du Lifetime Tour. Elle défend sur scène son dernier disque paru en septembre dernier. Et elle passera par l'Europe en octobre et novembre prochain avec plusieurs dates de prévues à Londres, Paris, Munich, Berlin, Prague ou encore Madrid.
So if the sky was falling on ourselves and follow no one else, could we leave it all behind? So won't you love me now, la 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 la. Love me now, la 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 la. Love me now, I need you to love me like you never loved me. So won't you love me now. Are you speaking my language? I got holes, you got holes. If someday we're better, we can take out the pressure. All our lives, we've been wasting time. Always standing light, but I'm letting go tonight. So if the sky was falling on ourselves, I'd follow no one else. Could we leave it all behind? So won't you love me now, love me now. Love me now, la 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 la.
Don't
vous accompagne 24 heures sur 24
avec ses meilleurs moments.
Le 9h,
13h,
service compris.
On a le plaisir d'accueillir Lucie Arletta, guide du patrimoine et historienne de l'art. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Avec vous, on découvre un petit peu les trésors valaisans en termes de patrimoine. On s'intéresse à la Tour des Sorciers. On en a déjà parlé il y a deux semaines, notamment du nom et de son origine. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évolution de l'architecture de la ville de Sion, dont faisait partie la Tour des Sorciers.
Exactement. Parce que on a tendance à l'oublier aujourd'hui, vu que tout a disparu depuis le 19e siècle, mais la ville de Sion était une ville fortifiée. Donc au tout début, on avait un petit bourg qu'on a fortifié, et puis avec le temps, on a de plus en plus de constructions qui se sont ajoutées, qu'il a également fallu protéger. Donc là, on a rajouté une seconde enceinte. Et puis, en termes de datation, on a retrouvé donc quand même quelques archives, mais qui sont pas très claires, parce qu'en fait, les seules archives réelles sur lequel on peut compter, c'est des gravures anciennes. Et puis, quelques textes, mais la ville de Sion a été incendiée de nombreuses fois, donc c'est vrai que les archives n'ont pas forcément été conservées non plus au fil des années. Mais on sait vraiment qu'on a pu rajouter notamment la tour et puis la deuxième enceinte autour du 14e siècle, parce qu'on était dans une période vraiment très faste, en tout cas en termes économiques et politiques, même si le côté démographique ne suivait pas forcément. On a vraiment eu en fait un problème de démographie dans la région de Sion et même en Valais au sens large, parce qu'on a eu des violentes épidémies qui ont frappé la ville, et puis il a fallu quand même attendre quelques siècles avant que ça reprenne un peu plus fort. Mais on avait toujours ce besoin d'avoir des fortifications qui à la base étaient de simples murs qu'on a renforcés, mais on devait quand même se protéger face à l'ennemi en plus des maladies. Et ces fameuses enceintes, on sait que, justement, comme on l'a dit, il y en a eu deux, et puis qu'on les a vraiment fait évoluer aussi au fil de nos besoins. Parce qu'on a parlé justement de cette tour des sorciers, on a rajouté cette tour dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc on voit que là, on a en tout cas trois siècles pendant lesquels on a fait évoluer ces murailles, et puis on a vraiment eu ce besoin de contrôle au maximum, au point qu'on a notamment fait aussi le château de Tourbillon en même temps. Donc on avait vraiment vu l'importance qu'avait Sion à l'époque, cette nécessité de se protéger des envahisseurs. Et puis, on a également ajouté des fossés pendant un temps à ces murailles, qui étaient quand même des constructions qui étaient vraiment conséquentes. On était sur 12 mètres de large, sur 3,50 mètres de profondeur. Et puis, l'idée, c'était aussi de ne pas les mettre trop proche des murs, parce que ils étaient assez fins. Si on collait le fossé à la muraille, comme ce n'était pas prévu, on pouvait déchausser le mur. Donc, un petit peu contre-productif par rapport à la première utilisation de la chose, mais c'est vrai que voilà, on a eu cette ville de Sion qui a été extrêmement marquée par ces différents remparts, et que à la fin du 19e siècle, on s'est vraiment rendu compte que ça ne servait finalement plus à rien, si ce n'est prendre de la place. Donc on a gardé cette tour des sorcières, comme on l'a dit, qui servait aussi de prison, et puis on a rasé tout le reste, qui nous a permis gentiment de créer des nouveaux bâtiments, comme le couvent des Ursulines qui est actuellement le palais du gouvernement, ou d'autres places en fait en ville de Sion, suite à l'espace dégagé par la destruction de ces remparts.
Donc on a utilisé les pierres des remparts.
J'irai peut-être pas jusque-là, parce que la conservation du patrimoine, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire un petit peu attention, même si ça s'est pas toujours fait de cette manière-là. Mais en tout cas, on sait qu'on les a détruits.
L'importance des archives, des gravures, justement, pour la mémoire.
Exactement, parce qu'on peut voir aussi l'évolution visuelle de ce qu'on avait, notamment pour cette tour des sorciers. On voit que le toit au début était plat, après on a rajouté des petits crénelages, on a fini par y mettre un toit. Et puis on peut voir aussi l'évolution de l'entier de la muraille, où on a vu quelles zones prenaient plus d'ampleur par rapport aux autres.
Et si on a envie de se rendre compte un petit peu à quoi ressemblait Sion à l'époque?
Il y a l'État du Valais qui vient de sortir une sorte d'application qui s'appelle Time Machine, et vous pouvez revoir justement ce à quoi ressemblait le Valais à l'époque.
En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette Tour des Sorciers, on a réalisé avec Lucie Arletta un podcast qui nous explique un petit peu l'histoire de cette tour, qui a eu plusieurs usages, notamment une prison. C'est à découvrir sur monpodcast.ch. Merci beaucoup, Lucie.
Merci.
My granddaddy ranch down in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed. I sell it illegal to people numbing their pain. I'm a little crazy, but the world's insane. I keep a loaded 44 sitting by the bed.
for the jeepers and the creepers who ain't riding ahead. Hope I never had to use it, but you never know these days. I'm a little crazy, but the world's insane. Oh, won't you get to know me? I'm a coyote in a field of wolves. Oh, I'm a red-letter rebel, but some become the devil when the moon is full. Yeah, the only thing keeping these tracks on the train, knowing I'm a little crazy, but the world's insane. I'm the house on the hill where the lightning strikes. Kids ride by scared on their Santa Claus bikes. Holding one goes missing, walking right down Main. Hey, I'm a little crazy, but the world's insane. Oh, won't you get to know me? Field of wolves. Oh, I'm a red letter rebel, but some become the devil when the moon is full. Yeah, the only thing keeping these tracks on the train, knowing I'm a little crazy, but the world's insane. And some lukewarm beers, and I do it every night, but the news don't change. Guess I'm a little crazy, but the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
Rhône, Rhône FM, séance de rattrapage. Le 9h,
13h,
avec Joe
Bonfier. Les Bretons ont décidé de boycotter le Guinness World Book des records et de lancer leur propre livre des records. Une initiative qui intervient après qu'un énième record ait été enregistré. Ça s'est passé dimanche dernier. Le record de la plus grande tarte aux fraises du monde, de pratiquement 50 mètres carrés, qui a demandé 750 kilos de fraises et 300 kilos de crème fraîche, rien que ça. Un record du monde qui a été réalisé dans le village de Plougastel à l'occasion de la traditionnelle fête des fraises qui a lieu tous les ans. Oui, mais voilà, les détenteurs de ce record se retrouvent un petit peu dans la même situation que nous avec la raclette au CERN de Martigny en avril dernier. Le Guinness Book leur a demandé la somme de 20 000 euros pour homologuer officiellement ce record, chose qu'a refusé le maire de la commune et le comité qui a mis sur pied ce record. Mais comme beaucoup de records insolites sont réalisés en Bretagne, eh bien le patron d'un bar a décidé de lancer en étroite collaboration avec Dominique Cap, président de l'association des maires du Finistère, leur propre livre des records, baptisé le Coref Book. Coref, qui est le nom de la brasserie à l'origine de l'idée. Avec le Coref Book, seule la présence d'un huissier est obligatoire pour faire homologuer les records et qui sont certifiés ensuite par un diplôme. Il est ouvert à tous et à tout type de records réalisés sur sol breton. Tout ça pour contrer le Guinness Book qui brasse des millions et qui prennent les gens pour des vaches à lait. C'est ce que précisent à la presse les initiateurs du projet. Ben tiens, et si on lançait aussi notre propre livre des records ici en Valais, hein, je suis sûr qu'il y a du potentiel. Et en première page, bien sûr, le record de la raclette qu'on a enregistré au CERM de Martigny le 5 avril dernier, évidemment.
Midway through the night, don't wanna cut down to the Yeah. terrified.
Le 9h-13h avec Joe Bonfier.
Bah alors, que se passe-t-il pour Beyoncé, habituée à faire salle comble dès qu'elle donne un concert? La superstar du R&B peine à remplir le stade de Tottenham Hotspur à Londres cette semaine où elle donnera 4 concerts jusqu'à lundi prochain. Étonnant ça, hein, quand on sait qu'en général les billets se vendent comme des petits pains. Eh bien, respect à Queen Bee, comme on la surnomme, puisqu'elle a décidé de faire preuve d'une grande générosité pour éviter que son concert se déroule dans un stade un peu vide. Beyoncé a fait don des derniers billets qui n'ont pas trouvé preneur à des associations caritatives de la ville de Londres. C'est près de 500 places qui ont donc pu être redistribuées à des personnes dans le besoin qui vont pouvoir assister à un sacré spectacle et réaliser probablement leur rêve. Voir Queen Bee en chair et en os, former sur scène. Le prix moyen de la place s'élevait à environ 200 €, une somme considérable quand même. Et ben voilà, on salue l'initiative donc. Hein. Mais cependant, Beyoncé et ses équipes n'ont pas caché leur inquiétude dans les colonnes du magazine The Sun. Ils constatent une baisse significative des ventes de billets par rapport à sa tournée qui avait eu lieu en 2023. Il y a 2 ans, les places de concert étaient parties et en quelques minutes à peine. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, hélas.
But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Just trying to get you back on.
know your heart by heart. Darling, oh, won't you, darling? But if waking up seems way too hard, and no one pulls you out the dark, if you don't ever let your spark, remember, I know your heart by heart.
Vous accompagne toute la nuit
avec ses meilleurs moments.
Le 9h,
13h,
service compris.
Et toutes les semaines, dans la rubrique Proche de vous, on aborde des sujets du quotidien aux côtés de coachs, de professionnels. On retrouve des témoignages aussi. Aujourd'hui, Léa est en compagnie de Philippe Laffaire, un praticien en médecine chinoise. Ensemble, ils découvrent le monde de la médecine chinoise.
Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ben, la jambe qui avait été traitée, elle était parfaite. Mais l'autre, pas du tout.
C'est l'heure d'être proche de vous. Lumière aujourd'hui sur la médecine chinoise en compagnie de deux invités, Edith et Philippe Laffaire. Bonjour.
Bonjour Léa.
Vous êtes Philippe, praticien en médecine chinoise. Éclairez-nous sur cette pratique tout d'abord. Qu'est-ce que c'est que la médecine chinoise ?
Alors la médecine chinoise, en fait, c'est une médecine qui est complète et holistique, qui regroupe différentes disciplines et qui est basée beaucoup sur le yin et le yang. Donc, qui sont un regroupement des phénomènes de la vie qui sont opposés et complémentaires. On voit le symbole là, avec les ronds. Il y a la notion de qi. On entend des fois parler de qi qui est l'énergie. Et il y a les cinq éléments et la notion d'esprit aussi.
C'est à quoi que c'est adapté ? Pourquoi est-ce qu'on va décider d'utiliser la médecine chinoise ?
Alors, c'est adapté aussi bien aux urgences, ce qu'on appelle des excès, des plénitudes, que aux maladies chroniques. On peut avoir quelque chose de très important, comme on parlait, une grippe ou un autre problème qui est un peu critique, ou alors avoir quelque chose qui est plutôt de l'ordre du vide, qui a mis vraiment du temps à se mettre en place. Moi, quand les gens me posent la question au cabinet par rapport à ça, ils me disent « mais pour quels symptômes on peut venir ?» J'ai un livre où il y a à peu près 300 ou 400 symptômes qu'on peut traiter avec l'acupuncture ou la médecine chinoise, donc je leur liste pas, mais je leur dis qu'il y a toutes ces possibilités, donc c'est vraiment très complet.
La médecine chinoise, c'est pas que l'acupuncture.
Tout à fait, Léa. C'est une médecine vraiment complète. Donc, il y a la diététique chinoise, qui est un élément très important. Il y a le Qigong, qui travaille plutôt sur l'esprit, la vitalité, tout ça. Mm-hmm. Il y a la pharmacopée, donc c'est l'équivalent des médicaments. Donc, il y a 3 ou 4 000 plantes, en tout cas. Il y a effectivement l'acupuncture. Il y a le massage Tuina, ça s'appelle le Tuina. Donc, il y a vraiment toutes ces différentes disciplines.
Edith, vous avez souvent accès à la médecine chinoise. Vous êtes venue nous raconter une histoire qui s'est passée sur le chemin de Compostelle.
Oui, Léa, nous sommes partis sur le chemin de Compostelle en plein hiver. Donc, déjà au niveau contexte assez difficile. Et donc, les douleurs sont apparues à près une vingtaine de kilomètres. Et lorsqu'on nous sommes arrivés au gîte, l'objectif, c'était de pouvoir repartir le lendemain. Et Philippe me propose de me faire de l'acupuncture. Et étant donné que j'étais tellement fatiguée et tellement saturée, j'ai accepté que sur une jambe. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ben, la jambe qui avait été traitée, elle était parfaite. Mais l'autre, pas du tout. Donc, on a décidé d'arrêter, de remettre le projet à plus tard.
Regret de ne pas avoir fait les deux jambes. Philippe, c'est vrai que les aiguilles, ça peut parfois faire peur. Ça peut peut-être se dire, ah ben, je ne vais pas faire de médecine parce que je n'ai pas envie de me faire piquer. Il y a d'autres alternatives?
Alors, effectivement, déjà, il y a plusieurs choses par rapport aux aiguilles. Il y a le fait que maintenant, il y a des aiguilles qui sont extrêmement fines, en 0,16 mm, par exemple, qui s'appelle d'ailleurs, la marque que j'utilise s'appelle Nondolence, ça veut dire qui ne fait pas souffrir. Mmh. Il y a le fait aussi, la technique de poncture est très importante, c'est-à-dire piquer sur l'expiration, qui est un mouvement de soulagement plutôt que l'inspiration, qui est un mouvement de tension. Et puis après, il y a d'autres méthodes de technique, c'est-à-dire utiliser un diapason, l'acupressure, et puis également, ce que je viens de me procurer récemment, c'est un laser, c'est-à-dire vraiment infrarouge, notamment pour les enfants ou les personnes qui sont extrêmement sensibles ou qui ont peur justement des aiguilles, où là, en fait, il n'y a pas du tout de contact avec du métal.
On trouve toujours des solutions, la médecine chinoise, qui est bonne aussi pour prévenir avant d'avoir des symptômes. On en parlera avec vous la semaine prochaine, Philippe. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci beaucoup, Léa.
Et à la semaine prochaine.
Searching to